Premier temps. Puis après, je demanderai si je peux disposer du. Je sais pas comment ça s'appelle, là. Voilà. La télécommande qui permet de défiler le PowerPoint. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment que nous pouvons passer, Seigneur, avec toi dans cet endroit. Merci pour ces moments de louange, Seigneur, qui viennent vraiment de notre cœur, du fond de notre cœur. Nous sommes là, Seigneur, pour te louer, t'adorer, mais aussi pour t'écouter, parce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que tu puisses disposer de nos cœurs, de faire silence en nous, Seigneur, afin que nous n'entendions que ta voix. Te prions que tu illumines par ton Esprit Saint, Seigneur, chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre, recevoir, saisir ta parole, le message que tu veux, Seigneur, nous transmettre à chacun aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous aider vraiment à avoir ce cœur réceptif. Nous puissions comprendre, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, rebonjour à celles et ceux que j'ai pas encore vus. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par cette semaine d'évangélisation. Alors, juste un côté pratique, il faudrait que je récupère mes lunettes. Alors aujourd'hui, quand je suis venu dans cette église, j'avais l'impression que je venais chez moi, que c'était mon église. Tellement la semaine dernière, on a eu le plaisir d'être avec vous, et donc évidemment, on s'est tous attachés les uns avec les autres, la communion fraternelle, de savoir qu'on a ce même Seigneur, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? Il l'a dit, je pense, Francis, tout à l'heure, c'est l'histoire du fils prodigue. Alors, je regarde ce... Vous me direz quand c'est OK, hein. Voilà, on y est. Alors, c'est une histoire qui se trouve dans la Bible, bien entendu, qui a été racontée par Jésus-Christ. Vous connaissez tous Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le fils de Dieu, qui est né il y a plus de 2000 ans, qui est resté parmi les hommes pendant une trentaine d'années environ. Et sa mission, c'était d'annoncer une bonne nouvelle aux hommes. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Voilà. Et cette bonne nouvelle, c'était la possibilité d'être réconcilié avec Dieu et d'avoir la vie éternelle, d'avoir le pardon de ses péchés. Et quand il était sur cette terre, le Seigneur Jésus a pratiquement passé tout son temps avant la crucifixion et la résurrection, il a passé pratiquement tout son temps à enseigner. Et aujourd'hui, on va justement voir un de ses enseignements qui est dispensé sous la forme de ce qu'on appelle une parabole. Parabole. Alors, la parabole, c'est pas forcément cette forme géométrique que vous avez appris en mathématiques. Ça aussi, c'est une parabole, bien sûr, mais la parabole dont il est question ici, c'est une manière d'enseigner qui utilise des images, qui utilise des allégories, des histoires parfois inspirées de la vie courante. Et Jésus utilisait beaucoup cette manière d'enseigner. Il a commencé par enseigner en parabole, et puis vers la fin de son passage sur cette terre, il commençait à être beaucoup plus clair, et il n'enseignait plus en parabole. Mais là, aujourd'hui, ce sera une parabole qu'on verra ensemble. Si Jésus s'exprimait en parabole, c'était pour que son public soit amené à réfléchir. Parce que parler en parabole, ça permet de pas être trop agressif, ça permet de pas être trop direct ou accusateur, mais ça permet quand même d'être clair quant au contenu de l'enseignement. Donc Jésus-Christ voulait amener son public à méditer sur cette parabole, sur cette histoire, en pensant à lui-même. Et tous les messages de Jésus-Christ avaient pour objectif d'expliquer ce qu'est le royaume de Dieu, qui peut y rentrer, comment avoir la vie éternelle, qui peut avoir droit à cette vie éternelle. Et nous allons voir, nous allons le lire d'abord dans un premier temps. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 15 verset 11. À partir du verset 11, on va lire jusqu'au verset 32.
Alors moi j'ai la traduction de la Bible en français courant. Nous allons le lire. Luc 15, à partir du verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de propriété et partit avec son argent dans un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un de ses habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir de fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation. Et il se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'il n'en faut. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il partit pour retourner chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe. Mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le, faisant un joyeux repas. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. » Et je l'ai retrouvé. Et une joyeuse fête commença. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. Et lorsqu'il revint et fut près de la maison, il entendit un bruit de musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que cela signifiait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour l'inviter à entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a de nombreuses années que je te sers, et je n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau gras. » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête joyeuse et être heureux, car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Alors c'est une parabole qui est d'une étonnante actualité, qu'on pourrait très bien raconter pour nous, génération du 21e siècle. Alors, donc là, le père avait deux fils. Et si vous avez remarqué, le focus est sur celui qui est le plus jeune. Alors c'est pas véritablement un hasard si le Seigneur a choisi que le héros entre guillemets de cette parabole soit le plus jeune. La jeunesse est une période cruciale pour les êtres humains. C'est un stade de la vie où on se pose souvent des questions. La plupart des gens ici sont jeunes ou ont été jeunes. Mais on a peur de l'avenir, on est vulnérable, on est influençable. Et pourtant, c'est une période de la vie, un stade de la vie où on a des choix qui sont cruciaux, des choix qui sont déterminants pour notre avenir. Et souvent, quand on est jeune, on prend des décisions hâtives, on est plutôt guidé par notre intuition et on veut plus être sous l'autorité des parents. Et on raisonne sur le court terme, voilà. On ne raisonne plus sur le long terme, mais sur le court terme. Et là, nous verrons que le jeune homme dont il est question ici va prendre un certain nombre de décisions qui vont être décisives, déterminantes sur la suite de son histoire. Il va prendre en fait quatre décisions, vous verrez, qui vont peser très lourd dans la balance et qui vont finalement l'amener dans une situation très problématique.
Je pense que vous connaissez tous cette histoire, c'est pas la première fois que vous l'entendez, n'est-ce pas? Mais je vous propose quand même aujourd'hui de suivre le cheminement de ce jeune homme. Alors, verset 11-12, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Voilà. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Donne-moi. Et ça, c'est la première décision. Il réclame sa part d'héritage. Et d'une manière générale, il faut dire que la plupart des jeunes, quand ils sont sous le toit familial, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ils rêvent de ne plus vivre sous l'autorité parentale, ils rêvent de vivre, de voler de leurs propres ailes. Moi, ça m'est arrivé aussi. Ils ressentent le besoin de ne plus obéir. On appelle ça l'émancipation. Et vous savez qu'il y a une loi en France qui permet à un jeune, si un des parents est d'accord, de s'émanciper dès l'âge de 16 ans. Donc, il y en a qui disent, maman, papa, quand j'aurai 16 ans, je veux être émancipé. Et suivant la culture, l'éducation de chacun, eh bien, certains vont intérioriser ce sentiment, mais certains vont passer à l'acte. Moi, personnellement, quand j'avais 13-14 ans, je commençais à en avoir marre que mes parents me donnent des ordres. Et je me disais, ah, quand je serai grand... Mais je ne passais pas à l'acte, je gardais ce sentiment en moi-même. Mais le jeune homme, il va au bout de ses aspirations. Il va carrément demander sa part d'héritage. Et à l'époque, réclamer son droit, ça voulait dire quoi? C'était légitime de réclamer son droit. Mais seulement si le père n'était plus en mesure d'exercer son autorité. Et là, il était bien en mesure d'exercer son autorité. Mais autrement dit, on pouvait réclamer l'héritage quand le père n'était plus là, quand il était mort. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeune homme, il considère que son père n'est plus rien pour lui, n'existe plus pour lui. Il dit donc, donne-moi la part qui doit me revenir. Il utilise quand même des termes choquants. Moi, si mon fils me dit ça, donne-moi la part qui doit me revenir, je ne sais pas comment je réagirais, mais je ne réagirai pas bien. Il est en train de réclamer sa part. Il considère donc sa part comme un dû. Et souvent, les enfants... Moi je ne suis pas en train de justifier les parents, hein, mais souvent, les enfants oublient l'amour que les parents leur portent. C'est vrai que les parents ne montrent pas forcément toujours de l'amour, mais ils oublient cet amour-là. Ils sont souvent ingrats. Ils considèrent la nourriture, le toit, les vêtements, tout ça comme un dû. Voilà, c'est normal que je puisse manger, c'est normal que tu m'achètes à manger, c'est normal que tu m'achètes des vêtements, je suis ton enfant, c'est normal. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Oui, parce que les parents aiment leurs enfants. Mais comment nous comportons vis-à-vis de Dieu? Avec l'air que nous respirons, avec cette nature dont nous jouissons, avec la nourriture que nous mangeons. Est-ce que nous avons cette attitude de reconnaissance régulière vis-à-vis de notre Dieu, nous pensons que c'est normal? Alors, il faut savoir que dans cette parabole, quand Jésus parle du Père, il fait une allusion directe, bien sûr, au Père Céleste, c'est-à-dire à Dieu. Et le jeune homme dont il est question ici, c'est celui ou celle qui ne veut pas de Dieu. On est bien d'accord. C'est celui qui ne veut pas de l'amour de Dieu, qui est rebelle à Dieu, qui préfère vivre une vie sans Dieu. Alors, que va faire ce Père? On va lire la suite. Il partagea ses biens entre ses deux fils. Alors, il y a une petite image un peu rigolote, il donne les clés de la voiture. C'est un peu la même chose. Il n'était pas obligé de le faire, hein. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il accède à sa demande. Vous voyez, c'est un père très tolérant. Même s'il n'est pas d'accord, il respecte les aspirations de son fils. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui nous a créés avec notre faculté de choisir librement, hein, notre orientation de vie. Voilà, on a ce libre arbitre. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce fils, peu de jours après? Donc, il a vendu sa part de propriété. Et il partit avec son argent pour un pays éloigné. Voilà, c'est la deuxième décision qu'il va prendre. Il va partir. J'ai les sous, je m'en vais. Et apparemment, donc, il ne supporte plus de rester avec ses parents, il va partir. Hein. Beaucoup de jeunes rêvent de partir. Alors, ça vous est peut-être arrivé, des fois j'aimerais bien partir, quitter le toit familial, se soustraire physiquement à la présence de papa et de maman. Et il va débarquer dans un monde lointain. Et Jésus précise qu'il s'agit justement d'un pays lointain.
Et vous allez voir, vous connaissez l'histoire, qu'il va être dans un pays où il va garder, après il va garder les pourceaux. Donc on suppose qu'il n'est pas dans un pays juif, parce que les gens élèvent et mangent des porcs. Donc c'est un monde complètement différent, opposé au monde il était avant, qu'il avait l'habitude de fréquenter, mais c'est un monde étranger, un monde attirant, un monde plein de tentations, où il y a toutes sortes d'activités, mais bien entendu ce ne sont pas des activités qui sont forcément bien saines. Et donc là, le jeune homme il va complètement perdre ses repères. Et il va vivre dans le désordre et dissiper sa fortune. Et c'est là qu'il prend une troisième décision. Donc, il va se livrer à la débauche. Là, pas besoin de faire un dessin, n'est-ce pas ? La débauche, c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme mauvaise chose, comme satisfaction de la chair. Je fais tout ce que je veux avec mon corps, je fais la fête, je tente ma chance au casino, je fais toutes sortes d'excès. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, et je ne vais pas peut-être vous surprendre, hein, que derrière ce monde de débauche, derrière ces tentations, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un dont le but est de détruire l'homme. Il y a quelqu'un dont le but est de détourner l'homme de Dieu. Vous savez qui c'est, ce quelqu'un ? C'est Satan. On l'appelle aussi le diable. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que, surtout quand on est chrétien, le diable veut nous attaquer. Mais nous avons le Seigneur. La parole dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il faut le savoir, il ne faut pas se leurrer. Le diable est à l'œuvre aussi. Alors quand il eut dépensé, ce jeune homme, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Mes amis, tout amour du plaisir charnel a tôt ou tard une contrepartie à payer. Alors je vais prendre un exemple très infime. Tout amour du plaisir charnel, ça peut être tout excès de table aussi. Mais forcément, il y a une conséquence sur votre corps. N'est-ce pas ? Ça, c'est une image que je vous donne. Mais le diable, pendant un temps, il va satisfaire à tous nos désirs, aux convoitises. Il va accéder à tous les caprices, tous les fantasmes. Mais cette générosité apparente n'est pas innocente, vous vous en doutez bien. Un jour, il faudra subir les conséquences. Un jour, il faudra payer. Et ce jour, il est arrivé pour ce jeune homme, sous la forme d'une famine. Alors qu'il a tout dépensé, pof ! Une famine. Il n'avait plus rien. Il n'avait pas réfléchi aux conséquences de sa mauvaise conduite. Il a mal géré ses sous. Et il se rend compte petit à petit que ce monde dans lequel il est tombé est un monde pourri. C'est un monde où tout est conçu pour le plumer. C'est un monde où tout est conçu pour le dépouiller, pour le tromper. C'est un monde qui est sous la coupe de quelqu'un qui veut détruire l'homme, qui veut le détruire. Vous savez, on se dit heureux quand tout va bien. Tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a du succès, etc. Mais quand vient la famine, entre guillemets, ça peut être la maladie, ça peut être la détresse, ça peut être des échecs sentimentaux, par exemple, des déceptions. Et ce prétendu bonheur s'écroule comme un château de cartes. Je crois que c'était la semaine dernière, il y avait une tornade, je crois, dans le nord de la France, et j'ai entendu à la radio une interview de propriétaire d'une maison qui est partie complètement en fumée. Quand je dis en fumée, donc il s'est écroulé à cause de la tornade. Il y avait donc cette mini-tornade et les propriétaires ont dit, voilà, on avait tout, on était heureux, on s'était mis dans cet endroit, on s'était installé dans cet endroit pour vivre heureux, et puis maintenant, plus rien du tout. Voilà. Et c'est ce qui va arriver à ce jeune homme. Et dans un premier temps, donc, il va devenir carrément un SDF. Hein. Et il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les cochons. Il parta donc. Alors, je crois que j'ai oublié. Ça marche plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, ça, c'était celui qui était avant. Voilà, c'est ça. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les cochons. Alors, là, il aurait pu se dire, ben voilà, j'ai plus rien à manger. Je vais rentrer chez moi parce que j'ai faim. N'est-ce pas ? Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, j'ai fait fausse route, j'ai fait des erreurs, allez, back home. Mais il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris, justement, encore une mauvaise décision, celle de chercher refuge auprès des hommes.
Et souvent, quand on a des problèmes et quand on est jeune, les parents, ils viennent pas tout de suite en première position dans la liste des solutions. On veut pas. Surtout si on est parti soi-même de la maison. C'est dur de revenir après, hein. Ce serait la honte. La preuve qu'on s'est trompé. Qu'on s'est planté. Donc, on essaie de se dépatouiller soi-même à cause de notre orgueil. Et puis, quand on n'y arrive pas, on cherche de l'aide chez les copains et les copines. Et laissez-moi vous dire que les copains et les copines, c'est pas toujours de très bons conseillers, surtout quand ils sont pas chrétiens. Et de nos jours, rares sont ceux qui se tournent tout de suite vers Dieu quand surviennent les moments difficiles. Au contraire, on accuse Dieu. On se détourne de Dieu. On se dit, mais si Dieu était là, mais pourquoi? Et malgré la famine, on recherche des solutions humaines. On cherche refuge et réconfort ailleurs qu'en Dieu, chez les hommes, des fois dans des plaisirs, je dirais, superficiels, hein, la drogue, l'alcool. Il y en a qui arrivent même au suicide, parce qu'ils sont au bout du désespoir, ils savent plus comment s'en sortir. Le taux de suicide chez les jeunes est alarmant. Parce que, ils se trouvent dans des situations, ça peut être un simple problème avec les parents et ils sont complètement déboussolés, ils ne savent pas. Et pourtant, ils veulent être en même temps adultes, mais ils ne s'en sortent pas. Et qu'est-ce qu'il faisait le fils d'un, donc, le jeune fils? Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier, que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, vous savez, cet habitant qu'il a pris sous sa coupe, là, qu'il a pris à son service, si je regarde la parole, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'a aucune pitié, aucune compassion, mais qui au contraire se plaît à humilier encore plus le jeune homme en l'envoyant faire des travaux avilissants. Certainement qu'il était au courant que ce jeune homme était juif. Certainement qu'il était au courant que le juif, pour le juif, un cochon, un porc, est un animal impur. Et il l'a envoyé là-bas. Mais la parole dit que le jeune homme, il mourait de faim et était réduit à vouloir manger la nourriture des cochons. Et pour un juif, vivre dans les mêmes conditions que les cochons, manger ce que mangent les cochons, c'est vraiment une chose dégradante, humiliante, répugnante. Ça, il faut en être conscient. Le Seigneur Jésus, là, tous les mots, toutes les images qu'il utilise sont calculées. Ça, c'est pour montrer que la condition de cet homme est vraiment une condition... il a touché vraiment le fond, quoi. Voilà. Et vous savez, cette parabole, elle est précédée par deux autres paraboles, la parabole de la brebis perdue et retrouvée et la parabole de la pièce perdue et retrouvée. Donc là, le Seigneur Jésus, il a comme public, on dit qu'il était avec des péagers, des collecteurs d'impôts, etc., donc que les pharisiens considéraient comme des gens de mauvaise réputation. Et donc il y avait les pharisiens aussi qui étaient là. Et quand Jésus donc raconte cette parabole, tout le monde est concerné. Et pour un pharisien, il a tout de suite compris que ce juif-là, ce jeune homme qui est avec les cochons, est quelqu'un qui est, j'ai le mot en malgache, mais je ne sais pas le dire en français. Voilà, irrécupérable. Voilà. C'est quelqu'un qui est moins que rien maintenant. Donc ceci pour dire que le fils était dans une situation lamentable et sans issue. Il était dans une famille qui était une famille aisée, n'est-ce pas? Et là, il se retrouve sans rien. Et vous savez, les deux paraboles dont je parlais qui précédaient cette parabole, Jésus voulait montrer dans ces paraboles-là que quelqu'un qui est considéré comme moins que rien, eh bien, il y a aussi un espoir pour lui. Que rien n'est, il n'y a pas de cas désespéré pour Jésus. Pour Dieu, un homme est un homme. Même si c'est un homme qui est moins que rien, qui est un pécheur notoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le jeune? Il se met à réfléchir sur sa situation et il dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit à réfléchir sur sa situation. Je ne sais pas ce qu'est-ce que vous avez dans votre traduction. Il me semble que dans le Semer, il se mit à réfléchir sur lui-même. Mais il y a d'autres traductions qui disent « Il était rentré en lui-même ». Et c'est une expression qui mérite un peu qu'on s'y arrête. Rentrer en lui-même, rentrer en soi-même. Rentrer en soi-même, c'est oser faire le point. Je ne sais pas si un jour dans votre vie, vous avez dit, je vais faire le point sur moi-même. Rentrer en soi-même, c'est faire le point sur soi, oser réfléchir sérieusement à sa situation vis-à-vis de Dieu. Où en suis-je ? Rentrer en soi-même, c'est oser se regarder en face, c'est affronter la réalité, ne pas la fuir. Et c'est ce que fait le jeune homme. Il accepte qu'il a fait un mauvais choix finalement, qu'il a pris une mauvaise décision et qu'il a pris un mauvais chemin. Et vous savez que dans cette démarche de rentrer en soi-même, de réfléchir à soi-même, ben Dieu agit. Il fait naître chez nous la conscience de notre véritable état, c'est-à-dire qu'on est perdu, qu'on est sur une mauvaise voie, qu'on file du mauvais coton. Et là, le jeune homme, non seulement il voit qu'il est dans le besoin, mais surtout, il se rend compte qu'il va mourir. Il dit, moi ici, je meurs de faim. Il se rend compte qu'il va mourir. Et là, il va être sauvé. Il parlait de mourir de faim. Et là, il faut y voir, dans cette parabole, il faut y voir une mort spirituelle. Et donc, il partit pour retourner chez son père. Tandis qu'il était assez loin de la maison, son père le vit et eut profondément pitié de lui. Il courut à sa rencontre, il le serra contre lui et l'embrassa. Alors le désir du jeune homme de retourner à la maison ne s'est pas arrêté au niveau des simples intentions. Il est passé à l'acte et ça c'est très important. C'est la meilleure décision qu'il va prendre. La décision qui va annuler toutes les décisions qu'il avait prises auparavant et qu'il avait menées au désastre. Quand je m'étais converti, moi personnellement, je me retrouve dans ce fils prodigue. Je me suis converti à l'âge de 18 ans. J'en ai beaucoup plus maintenant. Mais pendant un certain temps, juste après ma conversion, j'habitais dans un foyer chrétien. Il y avait un pasteur. Et après ma conversion, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je voulais voir ailleurs comment ça se passait. Parce que dans ce foyer, j'étais dans une bulle. J'entendais toujours « Alléluia, Amen », etc. Bien. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais voir un peu comment c'est ailleurs. Et j'habitais dans ce foyer, j'ai commencé par dire, je ne veux plus habiter là. Je veux habiter dans un appartement tout seul, donc j'étais étudiant à l'époque. Et j'étais un peu comme ce fils prodigue. J'ai vécu une vie vraiment de débauche. Je ne vous livre pas les détails, mais c'était pratiquement un peu comme ce jeune homme. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, j'ai envie de retourner à toi, mais je ne sais pas comment faire. Et pendant longtemps, c'est resté à ce stade-là. Mon itinéraire, j'habitais Marseille à l'époque, mon itinéraire, je devais passer devant ce foyer où j'habitais, je savais que le pasteur était là. Et quand je voyais la rue, je changeais de direction. Je ne voulais pas, je n'osais pas affronter. Et pourtant, en moi, je voulais... Mais je ne pouvais pas. Et un jour, j'ai sonné à la porte de ce foyer. Et je suis retourné. Quelque part, je suis un peu revenu à Dieu. Et pour moi, ça prenait la forme d'abord de demander pardon à ce pasteur. Parce que ce pasteur, j'étais parti, c'est lui qui m'avait, guidé jusqu'à Dieu. Et puis, je n'ai plus donné de nouvelles du tout. Et j'ai su après qu'il priait tous les jours pour moi, sans savoir où j'étais. C'était bien 3-4 ans après que je suis revenu. Là, on ne sait pas combien de temps le jeune homme, mais un certain temps, je me suis vraiment rendu compte que j'étais très bas et que je voulais revenir à Dieu. Et le fils, ce fils prodigue, là, je l'imagine bien en revenant chez lui. Au début, il est bien résolu, il doit marcher vite au départ. Et puis petit à petit, quand il se rapproche de la propriété, je l'imagine bien en train de ralentir. Le cœur qui commence à battre très fort. Il reconnaît les lieux. Il sait que la maison est juste à côté. Il ne sait pas comment son père va le recevoir. Mais le désir de revenir vers Dieu est plus fort. Et il va quand même. Il ralentit un peu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est le père qui court. Donc le père l'attendait, le guettait depuis longtemps. Ce n'était pas un père assis sur sa chaise avec un fouet à la main en l'attendant. Il a couru. C'est lui qui court. Je crois que c'est un des rares passages dans la Bible où on voit que c'est Dieu vraiment qui vient. Et moi, je peux vous dire que ce jeune homme, il sentait certainement pas la rose. Il était certainement à haillons, nu-pieds, certainement. Mais le père, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, écoute, va te laver d'abord parce que là, tu pues. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus, quand même, tu as exagéré. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es parti comme ça? Non. Avant que le fils n'ait commencé à formuler sa confession, il l'a déjà serré dans ses bras. On voit que c'est un père qui déborde d'amour. C'est ça la grâce. Et le fils lui dit alors,
mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi.
Autrement dit, il confesse ses péchés. Il reconnaît ses péchés, il demande pardon. La notion de péché est très importante ici. Vous savez, le mot péché, on l'entend plus que dans nos milieux chrétiens. C'est devenu presque un gros mot. Si à votre travail, quelqu'un fait une bêtise, vous lui dites, bah tiens, tu as fait un gros péché là. Il va vous regarder avec des yeux très bizarres. Le péché, maintenant, c'est quelque chose qu'il ne faut plus dire en public. Moi, je pense qu'il faut le dénoncer. C'est une notion essentielle. Quand le jeune homme dit « J'ai péché contre Dieu et contre toi », il avait quelque chose à se reprocher parce qu'il avait désobéi à la loi. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, le péché, c'est quand on désobéit à la loi. Et là, il avait désobéi à la loi de Dieu. Vous savez pourquoi il avait désobéi à Dieu? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a manqué de respect à son père, à ses parents. Dans la loi, il est écrit « Respecte ton père et ta mère ». N'est-ce pas? Et donc là, il savait qu'il avait péché contre la loi de Dieu, contre Dieu. Et le péché, pour lui, il a commencé quand il a voulu se libérer de l'autorité de son papa. Rappelez-vous, demander sa part d'héritage, c'était considérer que son père n'existait pas. Donc, c'est une offense grave. Alors, je ne sais pas si vous vous comparez à ce fils prodigue, mais moi, je peux vous dire qu'il y a une chose, c'est que tout le monde pêche. La parole dit, tous ont péché, ça c'est dans Romains 3, 23, et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, ou sont privés de la gloire de Dieu, suivant les traductions. La parole dit aussi que tout péché conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et là, que va faire le Père? Bon, petit problème. Bon, je lis. Le Père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe, mettez-la à lui, passez une bague au doigt, des chaussures aux pieds, amenez le veau gras, faisons un joyeux repas, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. Alors malgré ce qu'avait fait le fils, c'était pas recommandable ce qu'il a fait, mais le père l'accueille tel qu'il est, et il l'aime malgré tout. Pas de rancune, pas de colère. Il ne reproche rien. À un moment donné, je suis sûr que le fils, il avait commencé à répéter dans sa tête, voilà ce que je vais dire. Voilà, j'ai péché contre Dieu, contre toi, traite-moi comme un de tes ouvriers, etc. Il a dû repasser 50 fois, 1000 fois peut-être dans sa tête. Mais quand il commence à répéter ce qu'il avait dit, le père l'arrête. Il n'a pas eu le temps de dire la deuxième partie de la phrase qu'il avait préparée. Des habits neufs, on lui donne. Une bague, des souliers, etc. C'est une fête digne d'un prince. Quand on met une bague, à l'époque, quand on met une bague sur le doigt de quelqu'un, c'est qu'on lui donne une certaine autorité. Rappelez-vous le pharaon qui avait donné sa bague à Joseph dans Genèse 42. Donc il est traité comme un roi, le gars là. Et les chaussures qu'on met aux pieds, c'est un symbole de liberté, parce qu'avant les esclaves, ils étaient nu-pieds. C'était une des manières de reconnaître que c'était un esclave. Il n'avait pas de chaussures. Et là, des sandales aux pieds, des vêtements. Le fils prodigue, quand on dit prodigue, là j'ai oublié peut-être de vous expliquer ce que ça veut dire prodigue, mais peut-être que vous le savez. Quelqu'un qui est prodigue, c'est quelqu'un qui dépense très facilement. Et c'était le cas de ce fils-là. Mais il venait non seulement d'être libéré, affranchi des chaînes de ses péchés, mais en plus il était traité comme un prince. C'est comme ça que Dieu nous traite quand nous revenons à lui. On est traité comme des princes. Alors, du verset 25 à 32, on voit la réaction du fils aîné. Et souvent, quand on commente ou quand on explique cette parabole du fils prodigue, on s'arrête au verset 24, mais il y a une suite. On voit la réaction du fils aîné. Qu'est-ce qu'il a fait? Une réaction indignée face à la démonstration d'amour de son père envers le plus jeune. Et ce fils aîné, pourquoi il était indigné? Parce que lui, il comptait sur la reconnaissance des actes, de ce qu'il faisait, du fait qu'il obéissait aux ordres de son père, qu'il obéissait aux règles de la maison.
à ses bonnes actions, sa bonne conduite. C'est comme quelqu'un qui s'efforce juste d'observer les lois. Et ici, Jésus fait clairement allusion aux responsables religieux qui étaient là. Donc, il y avait des pharisiens aussi qui écoutaient sa parabole. Et ces responsables religieux ont voulu à Dieu de faire preuve d'indulgence vis-à-vis des gens de mauvaise vie. À chaque fois que les pharisiens voyaient Jésus avec des prostituées ou avec des péagers ou des collecteurs d'impôts, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens de mauvaise vie? Et autrement dit, ils disaient, ces gens de mauvaise vie-là ne méritent pas le salut. Et ce que veut dire Jésus-Christ, c'est qu'au contraire, il est venu non pas pour sauver ceux qui étaient en bonne santé, hein, mais ceux qui étaient perdus. Je ne sais pas si dans les églises, il y a des gens comme ça. J'espère pas dans cette église, mais il y a peut-être des gens qui sont fidèles aux réunions, aux activités, qui sont peut-être même diacres, responsables, mais qui ont une attitude méprisante vis-à-vis des, ou jalouse vis-à-vis des personnes dont ils connaissent bien la vie, et pas forcément une bonne vie, ils connaissent bien l'ancienne vie, et qui se repentent, qui bénéficient de la grâce de Dieu. Alors, j'étais en train de réfléchir, si jamais il y a quelqu'un que, ce n'est pas le cas, hein, mais si moi je porte une haine envers quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est arrivé, et que ce quelqu'un-là arrive dans mon église et se repent, comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais réagir bien? Ou est-ce que je vais réagir comme le fils aîné qui était finalement jaloux de son frère? Il n'a pas dit « mon frère » mais il a dit « ton fils » par rapport à son père. Donc il mettait déjà une distance entre lui et son frère. Moi je pense souvent à ces gens qui ont été victimes de la Shoah, les juifs qui ont été victimes de persécution et vraiment ceux qui étaient dans les camps de concentration. Je ne sais pas si je pourrais me mettre à leur place quand je verrai mon bourreau. Et je sais qu'il y a eu des témoignages de personnes qui se sont converties et qui ont pardonné à leur bourreau. Moi je trouve ça extraordinaire avec le Seigneur Jésus et son esprit qui peut agir en nous pour que nous ayons une telle approche après, de pardonner à mes bourreaux. C'est pas facile, hein? Alors, je vais bientôt terminer ce message. Peut-être que vous vous identifiez, que nous nous identifions à ce fils prodigue. Peut-être que le Seigneur, par son esprit, est en train de nous montrer la réalité de notre état ou de notre situation. Mais peut-être aussi qu'on n'a pas forcément grand-chose à se reprocher. Peut-être qu'on se dit, bon, mais ça c'est le fils prodigue, j'ai pas vécu comme lui. Mais il y a une chose, si vous vous êtes éloigné de Dieu d'une manière ou d'une autre, vous êtes privé de la présence de Dieu. Et au final, vous êtes tous comme nous sommes tous comme ce jeune homme prodigue. Mais si quelqu'un est dans ce cas, quels que soient les péchés qu'il a commis, s'il les regrette sincèrement, le Seigneur ne le rejettera pas. Il l'accueillera, il tendra ses bras d'amour. Et dans tous les cas, Dieu veut nous dire ce matin, si tu sens un vide dans ta vie, je veux le remplir. Si tu as une dépendance quelconque dans ta vie, je veux t'en délivrer. Si tu es dans une situation apparemment sans issue, je veux t'en sortir. Si tu te sens sale en toi-même, je veux te laver intérieurement. Je veux te donner l'assurance d'une vie nouvelle, une vie éternelle. Plus haut, on avait parlé de ce verset qui dit que tous sont privés de la gloire de Dieu dans Romains 3, 23, mais la suite dit que Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ. Il y a un passage qui a dit, on l'a vu tout à l'heure, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la suite, c'est quoi? Vous le connaissez? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui a donné sa vie pour nous sauver. Nous sauver de la mort à laquelle nous étions destinés. Il a été puni à notre place, alors qu'il était sans péché. Et si nous voulons être sauvés, tout ce que nous avons à faire, c'est lui demander pardon pour nos fautes. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regretter et de revenir à Dieu. Et d'accepter qu'il dirige notre vie, qu'il prenne les commandes de notre vie. Jésus a déjà tout payé sur la croix. Une fois pour toutes, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il suffit d'avoir un cœur brisé et contrit. Ça suffit largement. Et notre Dieu, si je peux le dire ainsi, c'est un Dieu de la deuxième chance. Je ne sais pas si vous connaissez
ce chant, tu peux tout recommencer, tu peux recommencer à zéro. Si nous pensons avoir tout gâché dans notre vie, eh bien le Seigneur, il veut non pas recoller les morceaux, mais tout effacer. Pour que nous puissions commencer une vie nouvelle avec lui, grâce au sacrifice de Jésus. Et une vie nouvelle qui ne veut pas forcément dire une vie toute rose. On l'a suffisamment dit pendant cette semaine. L'évangile, la vie avec Jésus-Christ, c'est pas toujours une vie rose. Souvent on dit, voilà, Jésus c'est la solution à tous tes problèmes. Moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui se convertissent, et là c'est le commencement des problèmes. Mais il y a une grosse différence. C'est que même dans les épreuves, même dans les difficultés, bon, il y aura des moments de joie, heureusement, mais dans les moments d'épreuve, de difficulté, le Seigneur est là. Et il y a quelqu'un qui avait dit, je ne me souviens plus exactement qui, il avait dit, le Seigneur ne nous délivre pas de l'épreuve. Il nous délivre dans l'épreuve. Et l'épreuve fait partie du lot du chrétien. Et j'espère vraiment que, tout comme le fils prodigue, beaucoup vont prendre la meilleure décision, comme il a fait, se tourner vers le Père Céleste, ce Père qui aime dans l'amour éternel. Et il faut savoir qu'un jour viendra où nous devons rendre des comptes. Et là, à ce moment-là, si nous avons refusé la grâce de Dieu, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant le jour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment de faire la paix avec Dieu. C'est le moment d'être en règle avec Dieu. J'espère vraiment que aujourd'hui, si tant est que vous vous êtes peut-être éloigné du Seigneur, vous êtes peut-être en froid avec lui, peut-être qu'il y a des péchés qui sont non confessés, c'est le moment aujourd'hui. Si tu connais déjà le Seigneur Jésus, mais que tu t'es éloigné comme moi à un moment donné, eh bien, le Seigneur est toujours là. Si tu ne le connais pas du tout, c'est le moment de le connaître. Mais il faut que tu reconnaisses d'abord que tu es perdu à cause de tes péchés. J'espère que nous puissions être touchés par ce message et que ce soit pas juste un message que nous entendons d'une oreille qui va sortir d'une autre, mais que ça reste vraiment dans notre cœur, que nous puissions répondre à l'appel de notre Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est le message principal de cette parabole. C'est que voilà, même l'homme le plus sale peut être sauvé. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ce message. Merci de nous rappeler, Seigneur, aujourd'hui, que oui, ceux qui reviennent à toi, Seigneur,